Chapitre 11. Berce son repos de ton chant le plus doux. Une mouche nage dans mon verre de Porto. Je la dépose sur le rebord de ma fenêtre. En la refermant, je vois le commissaire remonter la rue à pied, la lumière des réverbères sur son manteau. Le chemin qui mène au cimetière est bordé d'arbres. En bas se trouve l'église du Père Cédric, et derrière l'église, les quelques rues du centre-ville. Le commissaire marche vite. Il semble transi de froid. J'ai envie d'être seule, comme tous les soirs, ne parler à personne. Lire, écouter la radio, prendre un bain, fermer les volets, m'envelopper d'un kimono en soie rose. Juste être bien. Après la fermeture des grilles, le temps est à moi. J'en suis l'unique propriétaire. C'est un luxe d'être propriétaire de son temps. Je pense que c'est un des plus grands luxes qu'un être humain puisse s'offrir. Je porte encore l'hiver sur l'été, alors que normalement, à cette heure-ci, je porte l'été. Je m'en veux un peu d'avoir proposé au commissaire de passer chez moi, de lui avoir offert mon aide. Il frappe à la porte, comme la première fois. Eliane ne bouge pas, elle a déjà commencé sa nuit, roulée en boule dans les innombrables couvertures de son panier. Il me sourit, me dit bonsoir. Un froid sec entre en même temps que lui, je referme aussitôt. Je tire une chaise pour qu'il s'assoie. Il n'enlève pas son manteau, c'est bon signe, cela veut dire qu'il ne restera pas longtemps. Sans rien lui demander, je sors un verre en cristal et lui sers mon Porto, le cru 1983, celui que me rapporte José Luis Fernandez. En voyant la collection de bouteilles à l'intérieur du meuble qui me sert de bar, mon visiteur écarquille ses grands yeux noirs. Il y en a des centaines. Vin cuit, malt, liqueur, eau de vie, spiritueux. Je ne fais pas de trafic d'alcool, ce sont des cadeaux. Les gens n'osent pas m'offrir de fleurs. On n'offre pas de fleurs aux gardiens de cimetière, d'autant que j'en vends. On n'offre pas de fleurs aux fleuristes. À part Madame Pinto qui me rapporte des poupées sous vide chaque année, les autres, ce sont des bouteilles ou des pots de confiture. Il me faudrait plusieurs vies pour tout ingurgiter. Alors j'en donne beaucoup aux fossoyeurs. Il retire ses gants et boit une première gorgée de Porto. Ce que vous buvez là, c'est ce que j'ai de meilleur. Divin. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'il puisse prononcer le mot « divin » en sirotant mon Porto. À part ses cheveux qui partent dans tous les sens, il n'y a aucune fantaisie chez lui. Il a l'air aussi triste que les vêtements qu'il porte. Je prends de quoi noter, m'assied face à lui et lui demande de me parler de sa mère. Il semble réfléchir quelques instants, prend une inspiration et me répond « Elle était blonde, c'était naturel. » Et puis plus rien. Il recommence à observer mes murs blancs, comme s'il y avait des tableaux de maître accrochés dessus. De temps en temps, il porte le verre en cristal à sa bouche et avale le liquide à petites gorgées. Je vois qu'il déguste et qu'il se détend au fur et à mesure qu'il boit. Je n'ai jamais su faire de discours. Je pense et parle comme un rapport de police ou une pièce d'identité. Je sais vous dire si telle personne a une cicatrice, un grain de beauté, une excroissance, si elle boite, sa pointure. En un coup d'œil, je connais la taille, le poids, la couleur des yeux, de la peau, le signe particulier d'un individu, mais pour ce qui est de ce qu'il ressent, j'en suis incapable. Sauf s'il a quelque chose à cacher. Il a fini son verre. Aussitôt, je le resserre et découpe quelques tranches de comté que je dispose dans une assiette en porcelaine. Pour ce qui est des secrets, j'ai du flair. Je suis un vrai cabot. Je repère tout de suite le geste qui trahit. Enfin, ça, c'est ce que je croyais, avant de découvrir les dernières volontés de ma mère. Mon Porto fait le même effet à tout le monde. Il agit comme un sérum de vérité. Et vous, vous ne buvez pas? Je me sers une larme et trinque avec lui. C'est tout ce que vous buvez? Je suis gardienne de cimetière, je ne bois que des larmes. On pourrait parler des passions de votre mère. Quand je parle de passion, ce n'est pas forcément de théâtre ou de saut à l'élastique. Juste quelle était sa couleur préférée. L'endroit où elle aimait se promener. La musique qu'elle écoutait. Les films qu'elle regardait, si elle avait des chats, des chiens, des arbres, comment elle s'occupait, si elle aimait la pluie, le vent ou le soleil, quelle était sa saison préférée. Il reste longtemps silencieux. Il a l'air de chercher les mots comme un promeneur perdu cherche son chemin. Et il finit son verre et me dit « Elle aimait la neige et les roses. » Et puis c'est tout. Il n'a rien d'autre à dire sur elle. Il a l'air à la fois honteux et désemparé. C'est comme s'il venait de m'avouer qu'il était atteint d'une maladie orpheline, celle de ne pas savoir parler d'un de ses proches. Je me lève et me dirige vers l'armoire à registres. Je prends celui de 2015 et je l'ouvre à la première page. C'est un discours qui a été écrit le 1er janvier 2015 pour Marie Géant. Sa petite fille n'a pas pu venir à l'enterrement parce qu'elle était à l'étranger pour son travail. Elle me l'a envoyé et m'a demandé de le lire aux funérailles. Je pense que cela vous aidera. Prenez le registre, lisez le discours, prenez des notes et vous me le rendrez demain matin. Il se lève aussitôt en emportant le registre sous son bras. C'est la première fois qu'un registre sort de chez moi. Merci, merci pour tout. Vous dormez chez Madame Briand? Oui. Vous avez dîné? Elle m'a préparé quelque chose. Vous repartez à Marseille demain? Aux aurores, je vous déposerai le registre avant de partir. Laissez-le sur le rebord de la fenêtre derrière la jardinière bleue.